Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Les Tontons Farmeurs. C'est une nouvelle saison, une émission qui...
Les Tontons Farmeurs, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Une émission animée par Jean-Paul Hébrard de TV Agri.
Une émission pour vous, les agriculteurs.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et nos partenaires de toujours, nos partenaires qui ont accepté de re-signer pour vous offrir une douzaine d'émissions jusqu'à Noël et on les en remercie. Alors je cite bien sûr la Banque Populaire et le groupe Agrica. Alors, cette semaine, on attaque fort avec un sujet qui fait mal. Pourquoi le monde agricole joue-t-il si peu collectif? Lui qui se targue souvent d'être très collectif avec coopératives, CUMA et autres associations. Mais dans le fond, joue-t-il réellement collectif? Alors ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais tout d'abord, je vais vous présenter nos trois tontons farmeurs de la semaine. On les a sélectionnés et ce n'a pas été vraiment facile. Tout d'abord, notre syndicaliste agricole, Michaël Jacquemin avec Michaël. Alors, on est sûr que en période de confinement, au moins, il n'y a pas de manif, pas de boulot non plus dans les champs. On s'occupe comment dans la Marne, Michaël? On fait quoi?
Comme un agriculteur, tous les jours, on est au travail. Donc, il y a de l'activité tous les jours sur l'exploitation agricole, Jean-Paul, faut pas croire.
Bon, il y a du taf, alors, même dans la Marne. Lui aussi est de la Marne, mais bon, il est jeune, enfin, il est un peu plus jeune. Et il est déjà pas toujours vraiment commode. Enfin, vous allez le voir, j'accueille Jean-Baptiste Vervy, aussi président de l'association Co-Farming. Jean-Baptiste, cet atelier pâte alimentaire, est-ce que ça avance?
Ah oui, oui, ça avance. Et puis là, les ouvriers sont arrivés pour transformer la ferme en labo de production. Donc là, il y en a partout. Hein. Il y a des ouvriers partout, des tas de gravats partout. C'est le chantier, mais d'ici 5 mois, ça y est, on sortira nos premières pâtes.
La diversification est en route. Et enfin, notre troisième tonton farmer, c'est le cerveau du groupe. Il a tous les chiffres en tête. Il calcule plus vite que son ombre les marges des productions agricoles. J'ai cité Anel Bibard, le fondateur de FarmLib. C'est quoi déjà FarmLib? J'oublie toujours.
Alors FarmLib, c'est un numérique. C'est un club de producteurs qui permet aux agriculteurs de se comparer, identifier des marges de progrès au niveau technique, éco ou environnemental.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Et oui, vous pouvez nous contacter pour nous dire que vous êtes d'accord, que vous n'êtes pas d'accord, posez des questions à nos invités. C'est le moment ou jamais de le faire. Vous pouvez le faire aussi via les réseaux sociaux, hashtag TTF. Voilà. Alors, cette semaine, nous avons un invité hors norme. Ancien ministre de l'économie, mais aussi un connaisseur du monde rural, ancien député de la Bresse, ancien président du département de la Saône-et-Loire, vous avez reconnu. C'est Arnaud Montebourg qui est devenu multi-entrepreneur. Il trouve même d'ailleurs le temps d'écrire l'engagement aux éditions Grasset. Je n'en entends que du bien. Et il serait prêt, dit-on, à s'engager dans la course à la présidentielle. Enfin, on lui posera la question. Arnaud Montebourg, elle vient d'où cette énergie-là que vous avez?
Oh, bah écoutez, c'est la passion de faire, d'aller au bout des choses, l'amour du travail bien fait. Des choses qu'on peut partager avec plein de gens qui font exactement comme ça. Et puis c'est le plaisir aussi. La passion peut-être. Ah, hein, la passion d'abord.
Puis vous aimez l'agriculture?
Oui, c'est une histoire personnelle. Alors, moi, je ne suis pas d'une famille d'agriculteurs, mais j'ai eu une enfance très rurale. J'ai toujours vécu jusqu'à l'âge de, on va dire, 20 ans, au moment de mes études supérieures, dans des villages. Mes parents habitaient la campagne, dans la côte viticole, la côte de Nuit, en Côte d'Or. Vous voyez, j'habitais là. Et j'ai vécu dans le Morvan avec toute ma famille. J'avais un grand-père boucher-charcutier en Saône-et-Loire. Voilà. Et puis après, le destin a voulu que je m'engage en politique. Je suis devenu l'un des députés de ce département. Voilà.
Bon, Arnaud, vous savez, dans l'émission de Tonton Farmer, on va passer aux choses sérieuses. Et je vais demander à Anaël quelle est l'actu la semaine qui t'a le plus énervé, Anaël.
Alors, c'est quelque chose qui me pose question. Le sapin de Noël, est-ce qu'il dérègle les hommes politiques français? J'ai l'impression que depuis quelques mois, tout le monde est en train de dérailler. Un coup, c'est un qui trouve que c'est un arbre mort, qu'il ne faut plus en avoir.
Le maire de Bordeaux.
Puis après, c'est des produits réglementés, interdits à la vente. Il faut se rendre compte que le produit, le sapin de Noël, ça représente sur certains territoires plus de 10% du revenu agricole annuel. Donc si on leur avait interdit jusqu'au bout la vente de ce produit sur certaines exploitations, environ 1500, c'était un véritable carnage. Heureusement, on sort un peu par le haut, mais on attend encore un règlement pour savoir si on va le vendre sur des parkings, puis s'il faudra vendre à côté les boules de Noël sur le parking ou à l'intérieur. Bref, c'est une assez grosse cacophonie. Et finalement, quand on réfléchit, on se rend compte que pour les fêtes de fin d'année, il y a plein d'agriculteurs qui dépendent de ces produits-là, de cette période-là, avec des ventes fortes, foie gras, champagne, du moins j'en passe. Il y en a beaucoup de produits qui sont dépendants des fêtes. Et donc, il va falloir faire en sorte que les hommes politiques organisent un peu mieux les choses et soient un peu plus souples et agiles pour que ces fêtes de fin d'année ne sentent pas le sapin pour les agriculteurs.
Arnaud, votre réaction ?
J'ai envie de dire, je connais bien cette question parce que je suis originaire du Morvan.
On fait du sapin,
et que dans le massif du Morvan, il y a beaucoup de... L'essentiel de l'activité, c'est le sapin. Qu'il soit grand. Mon grand-père en avait d'ailleurs planté 11 hectares en 1962. Vous voyez, donc nous savons ce que ça représente pour des petites entreprises qui travaillent beaucoup, qui élèvent ces arbres, hein, et qui les font croître et qui les exploitent ensuite. Donc j'approuve parfaitement l'idée que c'est totalement absurde de vouloir, pour des raisons sanitaires, nous priver des sapins de Noël parce que, d'abord, je ne vois pas en quoi il y aurait dans la vente du sapin une propagation particulière du virus plus que ce qui existe par ailleurs dans des supermarchés qui aujourd'hui sont quand même bondés et par ailleurs je ne vois pas en quoi interdire un sapin de Noël ferait reculer l'épidémie. Donc j'approuve la position qui vient d'être exprimée qui me paraît à la fois raisonnable et ironique.
Et d'ailleurs, les tontons farmeurs, vous n'êtes pas du tout solidaires. Vous avez vu qu'Anaël a fait une blagounette à la fin qui était moyenne, mais vous auriez pu rire pour être solidaire. Bon, on va voir à présent avec Mickaël. Alors Mickaël, toi, tu es positif cette semaine. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ?
Non, mais c'est vrai, les agriculteurs ne sont pas toujours en train de se plaindre, heureusement.
Pas tout le temps.
Moi, écoute, Jean-Paul, pas tout le temps, ouais, c'est vrai. Bon, moi, Jean-Paul, ce que je trouve assez sympathique en ce moment, et ça me met un peu de baume au cœur, c'est notre ministre de l'Agriculture. Alors là, moi, ça me... Enfin, comme diraient les jeunes, je le kiffe. Au moins, quand il ouvre un dossier, il va jusqu'au bout. Il n'a pas peur de ses opinions. Et alors moi, mon petit rendez-vous, maintenant, toutes les semaines, le mardi, c'est les questions au Parlement.
Rien que pour alors entendre là, Julien de Normandie.
Il se lâche.
Ah oui. Rien que pour l'écouter.
Je parle bien de Julien de...
Oui, on parle bien de Julien de Normandie.
J'adore. Quand il prend la parole, il n'y a pas de souci. Il s'exprime, il va jusqu'au fond des choses, il défend les agriculteurs, la profession, et puis c'est vrai que bon, globalement, sur tous les sujets, il va jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui a les compétences, il connaît le métier, il est jeune, et moi honnêtement, aujourd'hui, j'adore.
Ouais, mais parce que pour l'instant, il n'a pas été contre vous, c'est-à-dire que là, il va toujours dans le bon sens, le sens que vous souhaitez, mais le jour où il va dire quelque chose qui ne va pas vous plaire,
on a besoin de ça, Jean-Paul. Le ministre de l'Agriculture doit être là pour défendre les agriculteurs et la profession agricole. Et d'autant plus que là, il est soutenu, forcément, on est dans une crise sanitaire et économique quand même assez importante. On a été identifié comme un secteur stratégique pour la France. Quand on est identifié comme secteur stratégique pour la France, le ministre de l'Agriculture, bah forcément, il a carte blanche aujourd'hui. Et quand il défend le budget de la PAC et qu'il dit clairement qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule corporation qui va faire autant d'efforts et qui va être tributaire à hauteur de 20 à 30% de contribution sur les mesures environnementales, c'est vrai, on est les seuls à faire autant d'efforts. Ça, il le dit publiquement. Alors forcément, ça chahute à l'Assemblée nationale quand ce sujet est mis sur la table. Mais il a pas peur. Il y va. Et ça, honnêtement, c'est bon.
Ah, tu sais, Michael, que jamais il veut venir à l'émission Les Tontons Farmeurs. On l'a invité 12 fois, il n'a même pas répondu, il n'a même pas dit oui, non. Mais ça fait rien, c'est vrai, c'est un vrai ministre de l'Agriculture. Il y avait 3 ministres avant qui étaient un peu transparents. Moi, je pense qu'on était d'accord ou on n'était pas d'accord, mais Stéphane Le Foll, c'était le dernier ministre dont on se souvient réellement le nom et qui a marqué. On pouvait ne pas être d'accord avec sa vision de l'agroécologie ou on est d'accord, mais dans tous les cas, il avait une vision. Et on a l'impression que Julien Normandie aussi a une vision de l'agriculture. Arnaud Montebourg, comment vous le trouvez, ce nouveau ministre de l'Agriculture ?
Écoutez, il a le mérite de connaître l'agriculture. Ça, c'est vrai que c'est un ingénieur agronome et on peut lui reconnaître cette qualité. Ça n'a pas été le cas de beaucoup de ses prédécesseurs. Donc ça, c'est déjà important. J'approuve l'idée qu'un ministre de l'Agriculture doit prendre la défense des agriculteurs, qui est une profession qui s'est beaucoup dépeuplée, qui ne pèse plus comme elle pesait auparavant, il y a 30 ans, ou 50 ans bien sûr, mais même moi quand j'ai commencé, j'étais jeune député il y a 25 ans, les assemblées de professionnels de territoire, il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de monde. Pourquoi ? Parce que les retraités n'ont pas été remplacés. Les agriculteurs se sont raréfiés et beaucoup ont quitté soit la profession, soit se sont étendus. Hein. Et en vérité, on a besoin que cette profession, qui exerce la fonction nourricière dans la société, soit défendue. Et pour moi, les dernières années descendent en enfer de l'agriculture. Et j'espère que maintenant, des leçons auront été tirées de ce qu'on a compris, de ce que doit être l'indépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire. Nous pouvons espérer que l'agriculture sera mieux considérée dans la société. Alors, c'est un point très important que cette fonction nourricière.
Tout à fait. Et
quand on a vu les crises successives, le lait, la viande, les fruits et légumes, etc., et qu'on voit les dégâts, et même les céréales maintenant, on voit les dégâts où finalement on a jeté les paysans européens, donc français, sur les marchés mondialisés sans aucune protection, parce qu'il y a eu le démantèlement de la PAC, il faut le dire, eh bien, on voit bien qu'on a besoin d'une politique nationale qui permettent de mieux protéger l'activité agricole,
Arnaud,
et les agriculteurs.
Arnaud, on a mille sujets à voir avec vous, mais alors écoutez bien ce qui va se passer à présent, parce que cela va être pour vous, quand vous serez président de la République en 2022. Souvenez-vous de la proposition de loi que va vous faire Jean-Baptiste Verville, là, juste en direct. C'est une idée pour faire avancer plus vite l'agriculture. Jean-Baptiste, essaye de convaincre Arnaud Montebourg, c'est important pour le futur.
Ok, ça marche. Mais Jean-Paul, il n'y a pas de petit tour de chauffe là sur les sujets qu'on doit traiter. On arrive direct,
direct
avec la proposition.
Direct, ouais. C'est la saison numéro 2, ça change.
Mais c'est parce que alors... je parle trop, peut-être. Je parle trop.
Oui, exactement. Avec Arnaud, là, on est passé déjà à la fin de l'émission. Là. Il faut faire vite.
Donc la proposition que je fais, vous êtes obligé de la reprendre parce qu'elle va être trop bien, c'est d'instaurer le principe de bonus collectif ou bonus même collaboratif. Je m'explique. Il y a plein en fait d'actions qui sont menées entre les agriculteurs individuels et on aurait tout à gagner à ce que ça soit collectif. Par exemple, là en ce moment, on encourage à investir individuellement dans du matériel pour renforcer l'agroécologie. C'est intéressant, mais c'est complètement stupide par rapport aux trésoreries, parce qu'on va tous se remettre encore des charges individuelles sur le dos, alors qu'en fait, collectivement, je veux dire, on pourrait avoir le matériel et écraser les charges et améliorer notre coût de production. Et ça, en fait, on l'a à tous les étages. Là, j'ai donné un exemple agricole, mais prenons un exemple, par exemple, dans les filières. C'est le sujet de l'émission. Est-ce qu'on joue toujours collectif dans l'agriculture ? Eh bien non, pas forcément. Par exemple, je vais prendre les campagnes de communication. On dit qu'il faut communiquer sur l'agriculture. Eh bien, dans la profession, on n'est pas foutu de s'entendre pour travailler ensemble et mettre un budget en commun, toutes les coopératives ou toutes les organisations agricoles, pour avoir une belle campagne de com qui dure et qui marque les esprits et qui permette d'embaucher des gens, d'installer des gens. Non, il y a un tel qui va lancer une campagne à 10 millions, il y a un tel qui va cramer une campagne à 3 millions. Tout le monde fait sa petite soupe, mais à la fin, c'est pas si efficace. Et donc là aussi, à l'échelle d'une filière peut-être, ou d'une organisation agricole, mettre en place ce principe de bonus collaboratif, c'est-à-dire s'il y a des subventions qui sont attribuées à un projet, quel qu'il soit, à ce moment-là, il peut être bonifié si il réunit plusieurs acteurs. Il y a une dynamique collaborative, une dynamique intelligente, qui permettra d'être plus efficace et du coup qui encourage justement à ce que voilà, ça joue collectif pour l'efficacité de telle ou telle campagne que l'on peut faire. J'ai pris un exemple mécanique, j'ai pris la communication, mais il y en a plein des sujets comme ça et on va le traiter dans l'émission.
En clair, si on a un budget de 1 milliard là, dans le cadre du plan de relance, ben on en prend peut-être que 900 millions et puis on garde 100 millions pour faire justement ce bonus collaboratif chaque fois qu'il y aura une action commune, une action collective. Arnaud, bonne ou mauvaise idée ?
Ça me paraît judicieux, il faut lutter contre la solitude de l'agriculteur. Il doit apprendre à travailler encore plus collectivement. Bien sûr qu'il y a des institutions collectives qui fonctionnent, mais on a besoin, par exemple, que l'agriculteur pense à s'associer peut-être encore plus largement, aller chercher du capital plutôt que de la dette, essayer d'imaginer des systèmes de mise en commun des investissements pour réduire le poids de la dette dans le bilan et donc dans le revenu de l'agriculteur. Donc, il y a beaucoup de choses à imaginer. Et c'est vrai que c'est une profession qui a des habitudes individuelles. Mais pourquoi ? Parce que c'est l'esprit de la Révolution française. On a partagé la terre et la tradition familiale, c'est d'abord l'exploitation par une famille, par un exploitant et sa famille d'une terre. Il faudrait imaginer des modèles beaucoup plus ouverts pour être plus forts ensemble. Donc moi, je trouve que c'est très judicieux. Il faudrait d'ailleurs en regarder les conséquences concrètes. Il y a plein de choses à imaginer ensemble.
Alors, si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Jean-Baptiste, je sens quand tu commences à parler. Bon, Arnaud,
ouais,
c'est pas tout.
Coupé direct.
Je ne sais pas par quoi commencer, Arnaud, par Bleu-Blanc-Ruche. Non, allez, je vais commencer par la Compagnie des Amandes. Alors, en France, c'est quoi l'histoire ? On importe quasiment 40 fois plus d'amandes qu'on en produit. Le marché est en plein boom. La Californie, qui est le premier producteur, voit sa production de plus en plus compromise par le réchauffement climatique, les incendies et autres. Et nous, on a perdu ce savoir-faire dans le sud de la France, où pas totalement perdu, mais presque. Et c'est de là qu'est partie votre idée, de façon courte, Arnaud ?
Oui, écoutez, on importe 40 000 tonnes d'amandes, nous, en France. Les Européens consomment 3 milliards d'amandes, et là-dedans, 80% est importé. Voilà. Et nous, quand on consomme 40 000 tonnes, on en produit en France 800 tonnes. Donc, vous voyez, en 1948, il y avait 12 000 hectares d'amandiers rien qu'en Provence. Tout ça a disparu. Donc, il s'agit de replanter de l'amande made in France et de la vendre décorrélée des cours mondiaux parce que beaucoup d'industriels, de pâtissiers et les consommateurs français veulent de l'amande en circuit court, tracée avec le tricolore sur le papier. Donc, c'est ce qu'on a décidé de planter. Et on est en train de terminer la levée de fonds. Enfin, on n'est pas très loin de 50 millions. Voilà. Alors, pour investir, planter des arbres pendant 25 ans et on s'associe avec les arboriculteurs.
Alors Arnaud, moi j'étais dans le Vaucluse, j'ai parlé un peu avec des agriculteurs. Ils vous aiment bien, hein, ils aiment bien la façon dont vous intervenez. Là, vous avez planté au mois d'octobre, je crois, inauguré la première plantation. Oui. Bon, vous avez la pêche, oui, l'énergie, voilà, vous savez aller au contact. Par contre, la forme d'association, et c'est le thème de l'émission, le collectif, là, ce que vous proposez, oui, ça vient de mars, là, c'est vraiment nouveau et ça leur fait un peu peur côté... ils parlent des fois de métayage. Enfin, expliquez-moi le process, le contrat.
Écoutez, c'est très intéressant cette question parce qu'on l'a souvent eu dans les réunions d'agriculteurs quand on est venu présenter le projet. Au début, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Il y a la terre de l'agriculteur, il en reste propriétaire. Il la loue à une société qu'on crée ensemble. Lui, il a 51%, nous 49%. Donc, il est chez lui.
Et il apporte 2500 euros, pas plus.
Il est chez lui, c'est lui le patron. Bon, c'est lui qui mène son verger. Mais nous sommes actionnaires minoritaires. Nous apportons le financement. Alors, ça va, parfois c'est 400 000 euros, parfois 1 million selon les hectares. Il faut, faut irriguer, amener l'eau, s'il n'y en a pas, faut planter, et puis on paye l'agriculteur aussi, tant qu'il n'y a pas de récolte. Ça, ça n'existe pas, hein,
4,
évidemment.
4 ans, 4,
pourquoi
ans.
Parce qu'on considère qu'il y a 80 heures de travail par an et par hectare, ben, le travail mérite salaire. Moi, je ne connais pas une seule entreprise où on ne paye pas les gens qui travaillent. Ça, ça n'existe que dans l'agriculture française et je ne comprends pas comment on a pu l'accepter.
Donc, nous, 700 euros par an.
Ben, on fait financer par nos investisseurs le travail jusqu'à la récolte et ensuite, eh bien, on gagne de l'argent ensemble et on partage les bénéfices. Pour l'agriculteur, 51% et nous, 49% sur le prix de la récolte qu'on s'engage à valoriser ensemble le plus cher possible. Alors, l'avantage de tout ça, c'est qu'on fait remonter la valeur puisqu'on investit dans l'exploitation agricole avec l'agriculteur en minoritaire. Donc, l'agriculteur, il ouvre son capital en quelque sorte, même si c'est une société qui est distincte de ses autres activités. Il isole, par exemple, 20 hectares, 25 hectares, 30 hectares, 60 hectares, peu importe. Et là, on investit sur ces hectares, on a un bail et un fermage, un bail rural de 25 ans, on finance en compte courant, d'ailleurs, donc le capital, il est majoritaire. On a évidemment des cordes de rappel, quand, évidemment, si l'agriculteur fait des bêtises. Et finalement, nous, notre travail, la compagnie d'amende, ça consiste à protéger l'agriculteur contre l'excès de gourmandise de nos investisseurs et protéger les investisseurs contre le risque lié au choix de l'agriculteur. Et donc, cet équilibre-là, ça nous permet de créer des avantages collectifs. Exemple, le machinisme agricole. Nous, on a réussi à négocier, puisqu'on crée 80 vergers, une baisse de 40% sur le prix des tracteurs, par exemple. Sur l'irrigation, même chose. Nous avons un mandat commercial qui nous permet d'avoir des volumes, donc de négocier plus cher les prix que nous arrachons à tous ceux à qui on vend, les pâtissiers, les industriels, l'Occitane en Provence, etc., les calissonniers, etc. Et puis, nous avons l'apport technologique, la mise en commun de l'expérience. L'INRA est dans le capital, le directeur scientifique de la compagnie, c'est l'homme de l'Amandier, à Montpavet, à Avignon, à l'INRA, et nous partageons ensemble la technique agricole agronomique. Et alors, en plus, on va chercher le label bas carbone, je termine là-dessus,
oui.
Le label bas carbone pour obtenir que finalement les vergers soient reconnus comme stockant du carbone, donc ça rapporte du revenu à l'agriculteur en plus.
Tonton Farmer, une réaction, un seul, qu'est-ce que vous en pensez ? Bonne ou mauvaise idée ? Vous êtes prêt à partir?
Évidemment que c'est une bonne idée. Ça permet de challenger en fait l'agriculteur, de l'accompagner, de le stimuler. Moi, je pense que c'est une véritable bonne dynamique, quel que soit le profil de l'agriculteur, jeune ou moins jeune. Je pense que c'est une bonne démarche.
Ouais, mais l'amende dans la mare n'est pas possible. C'est foutu.
Ouais, mais c'est bien.
Pardon.
Les amendes dans la mare, c'est foutu. Il ne faut pas que ça gèle. Jean-Baptiste.
J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Pardon.
Les amendiers dans la Marne, ça a peu de chances d'arriver. Je dis ça pour Mickaël.
Ah non, c'est pas possible. On passe pas au-dessus du Vaucluse. Hein, voilà.
Jean-Baptiste. Jean-Baptiste.
C'est parce que Mickaël, il voulait en planter.
Mais oui, je sais, je le vois, il est toujours prêt.
Les bons coups.
Ça serait sa 60e production.
Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est super bien parce qu'en fait, j'imagine que ça peut permettre à certains agriculteurs de s'installer, jeunes agriculteurs, et c'est super sympa. Et ça me fait penser quand même à un sujet, pour essayer de se raccrocher avec notre thématique, c'est que vous voyez la démarche que vous essayez de mettre en place, Monsieur Montebourg. Moi, j'ai participé à accompagner, en fait, à amener des fonds d'investissement pour apporter du capital dans les entreprises qui voulaient faire des projets, pour essayer de faire un effet de levier. Et bien, je me prenais en fait des retours par la banque locale qui était bien implantée dans l'agriculture, qui elle voyait d'un mauvais œil en fait ce type de montage parce que ça vient un peu perturber, parce que ça lui permet pas d'être toute seule en fait dans l'entreprise, ou parce que elle se disait non mais c'est tout, l'entreprise on lui prête ce qu'elle a besoin, peu importe si c'est bon de payer, si ça couvre toutes ses charges. On s'en foutait, en fait, comme à l'ancienne. Et ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous amenez du financement, si j'ai bien compris, vous amenez du financement et vous aidez l'agriculteur à démarrer, même quand il ne gagne pas d'argent, mais il va en gagner plus tard. Et voilà, vous perturbez un peu les modèles ambiants, qui sont des fois un peu figés, les modèles d'aujourd'hui.
Surtout, je suis d'accord avec vous. au début, ça fait bizarre, mais je ne vois pas où est le métayage là-dedans, parce qu'en fait, on travaille ensemble.
C'est plus proche de l'intégration.
Il a intérêt à travailler avec des gens qui ne pensent pas comme lui, mais qui ont le même but. Et tout le monde est gagnant. Et nous, on porte la dette. Donc, il n'y a pas de dette pour l'agriculteur. La différence entre aller à la banque pour emprunter et planter des amandiers, bah, c'est que même quand il n'y a pas de récolte, il faut rembourser. Nous, on met l'argent et on remboursera quand on aura de la récolte. Toute la différence.
On change de sujet. Parce que c'est votre faute, Arnaud Montebourg. Vous avez trop d'entreprises. Arnaud Montebourg, c'est devenu une marque. Il suffit de dire Arnaud Montebourg et hop, vous gagnez 370 000 euros. C'est le cas puisque vous venez de boucler une levée de fonds. Dites-moi si j'ai fait erreur. Sur la plateforme Mimosa, de 370 000 euros pour un global de 500 000 euros en tout. C'est bien ça?
C'est ça. Nous allons investir dans notre deuxième ferme qui, celle-là, sera dans la Vienne, dans le Poitou, dans la région Poitou-Charentes. Notre deuxième ferme qui va transformer du lait bio sur place. Et nos jeunes agriculteurs, c'est un jeune couple d'agriculteurs qui sont en GAEC, vont faire l'apprentissage de la fabrication de la glace avec notre meilleur ouvrier de France, David Vesmael, artisan glacier, qui a son laboratoire à Lille. Et ils vont apprendre à faire de la glace.
Ouais, mais Arnaud,
nous allons, là encore, on s'associe 51-49, 51 pour l'agriculteur, 49 pour nous. On porte la dette, on investit en compte courant et on gagne de l'argent ensemble.
Mais
le lait est payé 67% plus cher que le prix de marché du lait bio.
C'est vrai. Mais Arnaud, c'est quoi votre secret là? Parce que nous, on fait ça, on gagne 30 euros. Comment vous avez fait pour avoir 370 000 euros en très peu de temps?
Bah parce qu'on a, un projet qui est porté, qui rencontre l'adhésion du public. C'est du 100% bio. Ça n'existe pas sur le marché, la glace 100% bio. Il y a de la glace à peu près bio. Pourquoi? Parce que le lait est bio, les fruits et les ingrédients sont bio, l'agriculteur est agriculteur biologique, certifié agriculture biologique, et on a enlevé tous les E, les additifs chimiques.
Ouais.
Et donc, évidemment, la glace... Alors, les clients, ils connaissent la glace. Maintenant, on a vendu 45 000 pots en 6 mois.
Arnaud.
On va faire l'année à 500 000 euros de chiffre d'affaires avec une année incomplète.
Troisième entreprise que vous avez notamment, CO2 responsable en clair. Vous en aviez marre qu'Air France aille planter des arbres en Thaïlande alors qu'il y a moyen de capter du carbone en France. C'est vrai que d'ailleurs, le monde agricole est un peu à la ramasse sur le sujet. Je vais donner la parole à Jean-Baptiste Vervy ou à Naël. Là-dessus, on est à la ramasse?
Le CO2, pour moi, le CO2, je pense qu'on, le monde agricole, les responsables agricoles n'ont pas compris les enjeux. On a trois marchés du CO2 aujourd'hui. On a un marché, les échanges européens. Il y a 11 000 entreprises qui ont des crédits carbone. Ça fait des années, mais les agriculteurs n'ont pas le droit d'y aller parce que le stockage de CO2 est réversible en agriculture. Après, on a la taxe carbone. Et enfin, on a le marché carbone ouvert, un peu ce qu'a fait France Carbone Agri, ce qu'a fait Soil Capital, les Belges qui sont venus en France. Et en fait, je pense que beaucoup de responsables agricoles n'ont pas compris qu'en allant ensemble et de manière collective négocier au plus haut point, et c'est au niveau de l'Europe que ça va bloquer, au niveau réglementaire, qu'on n'aura pas accès à ce marché qui représente quand même 14 milliards d'euros par an d'échanges au niveau européen sur le marché du carbone. Et on se ferme le plus gros marché du carbone au niveau mondial.
Gilles.
En tout cas, moi, ce que je peux rajouter, là, Jean-Baptiste, c'est que j'en entends parler du carbone depuis... Enfin, je gravite un peu dans les organisations agricoles. Ça fait au moins 10 ans, 12 ans que j'entends parler. Et le monde agricole n'a rien sorti, en fait. Et là, on voit la proposition que M. Montebourg fait. On voit Soil Capital, on voit France Carbone. Il y a encore 2-3 autres exemples qui sont en train d'être réfléchis. J'ai cru comprendre même qu'il y aurait des prêts qui pourrait même être en lien avec son impact carbone. Pourtant, c'est de l'argent facile qu'on peut ramener sur les exploitations. Moi, je vois avec mon exploitation, je me suis branché sur Soil Capital, là. Je fais la même chose, simplement je donne mes données pour certifier que je capte du carbone, je gagne 5000 euros de plus. Et bien, dans la période dans laquelle on vit, c'est quand même de l'argent hyper facile à récupérer et pour redonner de la rentabilité. Et en plus, c'est gratifiant par rapport aux pratiques que je, que moi j'ai sur la ferme, hein, en semi-direct, acteur de conservation et tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi le monde agricole est encore en train de discuter, là, et tourne en rond, alors qu'il y a des initiatives privées qui sont en train de se mettre en place. On pouvait très bien le faire pareil.
Jean-Baptiste, on a un auditeur en ligne. Gilles ?
Oui, bonsoir. Gilles Maréchal de Agri Demain. Je vais essayer d'être plus court que chacun d'entre vous.
Ça ne va pas être dur. Hein.
non, bonsoir à tous et bravo pour votre émission. Je salue M. Montebourg et je salue son engagement dans l'agriculture actuellement. Je trouve ça très intéressant qu'un ancien ministre de l'économie, enfin, s'intéresse à l'agriculture. Il est venu à l'Assemblée générale d'Agri Demain. Je crois qu'il a apprécié, en tout cas nous avons apprécié son intervention. Il est aujourd'hui au tonton
parleur. C'est passionnant, merci, c'est vrai, c'est merci. Super.
Ouais. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, je suis en train de lire votre livre « L'engagement ». Je suis au début, mais je trouve que c'est pas mal parce que vous cartonnez pas mal, vous nous montrez un petit peu tout le problème de ce que vous appelez l'état profond, c'est-à-dire la technostructure. Une question simple, est-ce que vous allez y aller, Monsieur Montebourg ? Tout le monde se pose la question, là, on est entre nous. Donc, vous pouvez nous parler franchement.
Il y a personne qui écoute.
2022, voilà, il y a du monde, mais on est entre nous. Est-ce que entre justement Mélenchon et le Parti socialiste qui se cherchent, il y a quand même une grosse fenêtre de tir. Est-ce que vous allez y aller ? Ça serait intéressant qu'un homme politique qui se retrempe dans l'activité professionnelle, qui se lance dans les projets que vous expliquez très bien, puisse s'engager, comme le titre de votre ouvrage.
Sans langue de bois, Arnaud Montebourg. Bon.
Ben non, mais il n'y a pas de langue de bois. Je dois vous dire très sincèrement que j'y réfléchis sérieusement. Je n'ai pas pris ma décision pour une raison simple. D'abord, j'ai charge d'âme dans ces entreprises que j'ai créées. Deuxièmement, il y a des questions familiales qui se posent toujours. Enfin, est-ce que les conditions politiques sont favorables à accueillir une candidature comme la mienne ? C'est à vérifier. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, mais je vous assure, si vous me réinvitez devant les tontons farmers, je vous dirai volontiers ma position au printemps prochain, parce que je pense que ce sera au printemps prochain que je prendrai ma décision.
Rien que pour soutenir l'idée.
C'est noté.
Est-ce que je peux dire un mot quand même, M. Ebrard ? Est-ce que je peux dire un mot sur le carbone et le stockage de carbone made in France ?
Un seul.
Eh oui.
Allez-y.
D'abord, je voulais d'abord dire que si on n'arrive pas en France à faire passer l'argent des émetteurs de CO2 vers les stockeurs de carbone que sont les producteurs de végétaux, que sont les agriculteurs, ce n'est pas parce que les organisations syndicales ou professionnelles n'ont pas été suffisamment averties, c'est parce que le système bureaucratique est impénétrable, c'est un maquis incompréhensible. Tel que ça a été imaginé dans la loi. Vous savez qu'il y a un label bas carbone, donc avec une méthode de calcul de la captation du carbone, qui a été organisée par les textes réglementaires et législatifs. Et il y a une administration en face, qui est le ministère de l'écologie, qui organise ce calcul. Et donc, ils labellisent en quelque sorte des méthodes pour certaines techniques agronomiques ou culturales. Exemple, dans la compagnie d'amandes, on est en train de faire valider une méthode et un label bas carbone pour tous les vergers, pas seulement les amandiers, mais tous les vergers, parce que ce sont des arbres et les arbres peuvent stocker du carbone. Et à partir du moment où on aura la méthode, et c'est imminent d'après ce que nous avons fait, eh bien, nous pourrons valoriser tous ceux qui vont planter des arbres fruitiers, valorisé avec notre carbone. Et c'est ce que nous proposons aux émetteurs de CO2 qui veulent réduire leur empreinte, venez investir dans le carbone made in France, parce qu'il est tracé, puis surtout ça soutient l'agriculture française.
Bon,
donc ça suppose juste qu'à chaque fois qu'on a une technique agronomique, on le fasse reconnaître par l'administration. Parce que les agriculteurs, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les modèles mathématiques imposés par le ministère. Ils n'ont pas, c'est presque des algorithmes, et donc on est obligé d'en passer par ce sas algorithmique pour obtenir le bon tarif.
Arnaud.
Et donc ça, on se propose de le faire.
Arnaud.
Et on le fait financer par les émetteurs de CO2, Arnaud pour que l'argent aille vers l'agriculteur.
Quand voilà. Vous dites un mot, c'est une image, vous, hein. Vraiment. Alors, on va attaquer, dans les 6 dernières minutes qui nous restent, le sujet sur le collectif de fonds. Jean-Baptiste, toi qui vis le monde agricole de l'intérieur, alors on a les COP, les CUMA, etc. Est-ce qu'on est vraiment collectif dans l'agriculture ?
Eh bien, des fois, oui, parce que quand même, on ne peut pas dire qu'on n'est pas collectif dans notre histoire avec les coopératifs, les CUMA. Enfin, il y a quand même du collectif. Mais des fois, enfin, c'est mon point de vue, pour défendre un peu son entreprise ou sa chapelle, on va vouloir faire à la place des autres. On va faire sa propre campagne de com. On va faire ses propres essais techniques qui vont être pris à côté et encore à côté par une autre boîte. On va, par exemple, je ne sais pas si Mickaël voulait l'aborder, mais par exemple, Mickaël, il a fait une petite application pour échanger les parcelles.
Petite, elle est belle.
Je te donne en mille et mille.
Ouais. Échange parcelles.
Je te donne en mille et mille. Les affaires, voilà, et bien les affaires, elles ont refait leur petite application.
Et pendant le mille.
Voilà. Et bien ça, c'est un peu tout le temps, et c'est un peu con parce que c'est quand même un peu de gaspillage, à mon avis, d'énergie et d'argent pour le monde agricole, et que si on s'associait, bah, on pourrait peut-être aller plus loin, plus fort sur des sujets qui sont plus importants.
Mais exactement, Mickaël, tu avais pris de l'avance, la FNSAFER serait venue avec toi, vous auriez pu conquérir le monde entier, vous seriez devenu une licorne.
Bah ouais, donc c'est un peu la différence entre le monde des startups et le monde un peu des organisations professionnelles historiques, qui ont des assises, évidemment, qui ont un historique, le poids de l'histoire, et bon, qui sont persuadés pouvoir faire seuls. Alors oui, les organisations professionnelles historiques peuvent certainement faire seules, mais je pense que c'est certainement dommage de ne pas regarder ce qui se passe à côté. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs nettement plus jeunes, nettement plus agiles, qui méritent d'être observés.
Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que les syndicats, c'est pas beaucoup mieux. On a le MODEF, la FNSEA, la Confédération Paysanne, la Coordination, ils pourraient faire l'Union Sacrée. Il y a des fois des débats sur lesquels il faudrait l'Union Sacrée. Alors pourquoi ils ne le font pas? On l'a demandé à Jean-Marie Céroni, qui est agroéconomiste et puis qui n'a pas la langue dans sa poche.
Alors la première question, c'est... En quoi l'union sacrée serait intéressant? D'abord, l'union sacrée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les syndicats agricoles, comme dans d'autres secteurs d'activité, défendent des positions communes. Pourquoi c'est important? Parce que le monde agricole est de plus en plus minoritaire et en même temps, la problématique agricole et de l'alimentation intéresse de plus en plus nos concitoyens, ce qui peut amener des contraintes sur les agriculteurs, d'où l'importance d'avoir une défense commune. Et en même temps, il y a de plus en plus d'investisseurs non agricoles qui s'intéressent et qui investissent dans l'agriculture. Donc il est aussi important d'avoir des positions communes pour mettre des garde-fous. Alors pourquoi ça ne se fait pas? Je crois qu'il y a trois raisons. La première raison, c'est quelque part l'habitude, l'antériorité. Historiquement, pour des raisons assez incompréhensibles, les syndicats agricoles ne se rencontrent pas et jusqu'à un passé récent, leur président ne se connaissait pas véritablement. Ça, c'est la première raison, l'habitude. Deuxième, bien sûr, c'est les logiques d'appareil, où il faut savoir les dépasser, et c'est un peu compliqué, même si les choses avancent. Et troisième raison, et je pense que c'est la plus fondamentale, c'est que je pense qu'un certain nombre de responsables sont persuadés que leurs mandants, les agriculteurs, ne sont pas favorables à ce genre de rapprochement. Ce qui, à mon avis, est complètement faux. On est aujourd'hui beaucoup plus dans une époque de coopération que dans une époque de confrontation.
Alors, Mickaël, on l'a fait quand, cette union sacrée? Toi, le syndicaliste?
Ouais, c'est plus global que ça. Moi, j'ai envie de dire, il y a quand même, ça a été évoqué, là, le poids d'histoire. Et quand on dit dans le titre « Pourquoi le monde agricole joue si peu collectif hein, », moi, j'ai envie de reformuler « Peut-être de moins en moins collectif ». Alors l'histoire, c'est quoi? Bah, c'est des visionnaires qui ont créé toutes ces organisations professionnelles, des personnes qui avaient véritablement la vision et qui avaient bien identifié que tout seul, ils étaient incapables de pouvoir, j'ai envie de dire même survivre, c'était vital. Donc le regroupement était nécessaire. Depuis, il y a des héritiers qui sont arrivés, qui ont repris la gouvernance, alors que ce soit des présidents, alors je vais rester sur la notion des élus, mais en parallèle, on peut mettre aussi les directeurs, les directoires. Donc ces gens-là ont repris, c'est le poids de l'histoire, avec aussi sur les épaules cette volonté pas forcément de vouloir faire de révolution. Et on est dans un fonctionnement où, on est dans l'habitude, ça a été évoqué, et on se pose même plus la question des attentes utilisateurs. Et nous, nos petites startups, bah, ce qui nous fait vivre, c'est ça, c'est les attentes utilisateurs. C'est pour ça qu'on a monté nos startups. C'est parce qu'on a identifié les attentes utilisateurs. Aujourd'hui, ces organisations professionnelles, je suis pas sûr qu'elles soient encore à l'écoute de leurs utilisateurs. Alors, il y a des explications à ça. Pourquoi il y a une certaine inertie? Bon, bah, c'est le poids aussi de cette gouvernance qui est parfois un peu trop longue dans la transmission. Alors, on a des anciens, alors c'est pas péjoratif, hein, qui ont l'impression de jouer le rôle de gardien du temple. Voilà. Ils ont hérité d'un système. Ben, le temple, il faut surtout pas trop le bouleverser. On est là, on le préserve. Ponctuellement, on introduit de nouveaux jeunes dans les conseils d'administration, mais voilà, pas trop jeunes quand même. Donc on attend, et puis ces jeunes, pour le temps qu'ils aient accès à la gouvernance. Mais il y a toujours ces anciens qui sont là, qui freinent, qui demandent à faire de la stabilité. Alors ouais, c'est rassurant, c'est gage de stabilité, mais je pense que c'est vraiment un frein. Et le frein, il va falloir le casser, quoi. Il va falloir permettre du changement et donner accès aux jeunes davantage dans ces structures-là.
Alors, justement, Michael, pour voir vers le devant, vers le futur, Annel, pardon, juste pour voir vers le futur, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, il y a une personne, moi j'aime bien l'interviewer parce qu'il sait prendre du recul, de la hauteur, c'est Christian Huyghe. Il est directeur scientifique adjoint de l'INRA et je lui ai posé la question de voir un peu comment il faut créer du collectif. Est-ce qu'on n'a pas perdu en route un peu le fond de la création du collectif? Écoutez-le, vous allez voir.
Alors le collectif tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est très tourné autour de l'économie, en fait des groupes qui fonctionnent de façon collective autour d'un objectif économique, mais ce n'est pas ça qui suffit à créer un collectif. Ce qui fait, pour que des gens travaillent ensemble, il faut qu'ils aient un espace commun, et l'espace commun, il se fonde autour de ce qui est bien commun. Et la question qui est posée aujourd'hui à l'agriculture, c'est qu'est-ce qui fait bien commun? L'agriculture, qui a connu une période de développement extrêmement forte entre les années 50 et les années 70, était porté autour d'un bien commun qui était la sécurité alimentaire. C'était ça qui était la mission globale des agriculteurs. Aujourd'hui, ce que l'on a, ce que l'on doit se poser comme question, c'est qu'est-ce qui fait bien commun et qu'est-ce qui est en tension entre le bien commun et le bien privé. Et la préservation de l'environnement, le fait d'avoir donné du sens pour la génération future, c'est ça qui fait bien commun aujourd'hui et c'est ça qui va aussi permettre aux agriculteurs d'exprimer et d'expliquer leur métier au reste de la société.
Qui souhaite rebondir ? Là-dessus.
Moi, je pense que le côté bien commun, effectivement, c'est le pourquoi, le sens, donner du sens. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un hiatus entre des exploitations où on défend un modèle, même si elles grandissent, on défend un modèle qui reste un modèle familial ou de TPE, quand on compare les tailles des exploitations françaises à les exploitations même ne serait-ce qu'européennes, où le bilan est 5 à 6 fois moins gros en euros. Hein. On est à 600K euros par exploitation agricole. Au Canada, on est à 3 millions. Et on se retrouve avec des petites exploitations, en moyenne, on défend ces valeurs, mais les cotes en face, elles grandissent de plus en plus. Les 10 plus grosses, c'est 45% du chiffre d'affaires des 2500 cotes françaises. Et donc, dans ces tailles de structure, vis-à-vis de petites entreprises, il faut rappeler le sens de ce bien commun. Et l'économie collaborative, ça s'appuie sur quatre principes: confiance, réactivité, souplesse et transparence. Alors, la confiance, par la structure coopérative, je pense qu'elles l'ont bâtie dans la durée. La transparence aussi, par les comptes, un homme, une voix. Quand on regarde réactivité et souplesse, ce qui est attendu aussi dans l'économie collaborative d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un hiatus entre la taille, la souplesse, la réactivité, et à côté, dans le pourquoi. C'est pas juste bigger is better. Hein. Là, on voit ce que monte Monsieur Montebourg. Finalement, c'est gros et pas gros à la fois. C'est gros parce qu'il a levé 50 millions pour financer ça, mais
c'est pas mal.
Finalement, par rapport à certaines COP qui posent des milliards, c'est petit. Donc finalement, parfois, des petites initiatives comme ça, c'est génial.
Arnaud Montebourg, un mot de conclusion.
Moi, je pense que le collectif aujourd'hui, c'est trop perçu comme un contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, on n'a pas envie de signer un contrat à durée indéterminée toute sa carrière avec un collectif. On a envie de pendant une période de sa vie professionnelle, on peut avoir besoin de travailler collectif sur un sujet, puis ensuite, on a envie de passer à autre chose. Donc aujourd'hui, les CDI, ça fait plus rêver. Moi, je suis employeur, même mes salariés, ça les fait plus rêver.
Arnaud Montebourg.
Plus d'agilité, de la souplesse.
Arnaud Montebourg, j'ai une question là sur Twitter. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de l'agriculture? Pensez-vous que l'agriculture biologique sera la nouvelle norme dans les années à venir? Demande Alexandre Devinck. Alors?
Oui, je le crois. D'abord parce que l'agriculture biologique, elle est moins exportatrice, mais elle le sera quand même. Mais elle se consacre finalement à l'alimentation immédiate de ceux qui se trouvent autour. Donc c'est le retour à la fonction nourricière et un peu moins à la fonction quasi, à l'échelle quasi industrielle de l'agriculture. Donc ce retour-là, il est réclamé par le consommateur qui est prêt à payer et qui, par ailleurs, ouvre des marchés et des perspectives très importantes. Et là, on n'est pas au niveau en France.
On arrive à la fin de l'émission, Jean-Baptiste.
Un grand morceau de la bio. Voilà.
Bon, on est arrivé au terme de cette émission. Je suis désolé, on pourra en parler toute la soirée, mais il faut savoir s'arrêter. On a toute une nouvelle saison, les tontons farmeurs, là. Donc, on va avoir l'occasion de revenir sur tous ces sujets. Je tenais bien sûr à vous remercier, vous, Arnaud Montebourg, mais ainsi que tous nos invités et nos auditeurs, l'association CoFarming en particulier, et nos sponsors, parce qu'il nous faut des sponsors pour vivre. Et c'est la Banque Populaire et le groupe Agrica. Je les remercie chaque fois. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Donc pour un nouveau sujet tout aussi décapant. Merci à vous, merci à vous tous, passez une bonne soirée et surtout portez-vous bien. À bientôt.
Merci.
Bye bye.
Au revoir.
Merci les tontons farmeurs.
Ciao.